بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة، heureux d'être parmi vous aujourd'hui le samedi le 21 du mois Rajab de l'année 1447 de l'Hégire, correspondant au 10 janvier 2026. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala pour poursuivre ensemble notre étude du livre de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, décédé en l'an 1206, revivificateur de la religion de l'islam dans la deuxième moitié du 12e siècle, qui s'intitule Kitab al-Tawhid alladhi huwa haqqullahi ala al-abid, le livre de l'unicité, qui est le droit d'Allah sur ses serviteurs. Donc, on s'est rendu au 49e chapitre de ce livre qui comporte 66 ou 67 chapitres en comptant l'introduction comme un chapitre. Donc, dans lequel l'auteur rahimahullah dit Babu ma ja'a fi qawlillahi ta'ala wa la in adhaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra'a massathu la yaqulanna hadha li. Donc, ce chapitre que l'auteur, rahimahullah, a intitulé par le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans le sens approximatif, « Et si nous lui faisons goûter une miséricorde de notre part après qu'un mal l'ait touché, il dit, ceci me revient de plein droit. » Au sujet de ce verset, il a rapporté la parole de Mujahid rahimahullah, parmi les grands imams de Tabi'in, et notamment dans la science de Tafsir. C'est l'élève de Ibn Abbas radiallahu anhuma, et même son élève le plus brillant, au point où Salaf ont dit « إِذَا جَاءَكَ التَّفْسِيرُ مِنْ مُجَاهِدٍ فَحَسْبُكَ بِهِ » Quand l'explication d'un verset te parvient de la part de Mujahid, ça te suffit comme explication. Car il a étudié Tafsir avec Ibn Abbas du Coran en entier plusieurs fois. Donc, il a rapporté sa parole dans laquelle il dit « هذا بعملي وأنا محقوق به » Donc, quand l'homme est touché par une miséricorde de la part de son Seigneur, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « هذا بعملي » C'est le fruit de mes œuvres et c'est mon droit. وقال ابن عباس « يريد من عندي » Et rapporté de ابن عباس, il veut dire par cela « cela provient de moi ». Donc, avant de parler de ces versets, dans ce chapitre, l'auteur rahimallah a cité deux versets et hadith Abi Huraira, qui mérite à lui tout seul un cours entier. Ce magnifique hadith dans lequel Nabi alayhi salam nous parle de ces trois hommes parmi les fils d'Israël. Donc, l'auteur, rahimallah, rappelez-vous, mes frères, qu'on est toujours dans cette dernière partie du livre dans laquelle l'auteur, rahimallah, nous rapporte des exemples de paroles ou de citations, ou de propos qui ne convient pas que le croyant puisse utiliser sans forcément avoir une mauvaise intention ou vouloir le mauvais sens qu'elle puisse comporter. Lakin, le devoir du croyant, c'est de s'en éloigner, de s'éloigner de ces expressions qui sont rapportées dans tous ces chapitres, car ça comporte une forme d'impolitesse vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, ça rentre dans ce qui tâche ton tawhid et ce qui diminue ton tawhid. Et ça nous apprend quelque chose de très important, l'islam. C'est pas parce que tu as une bonne intention que tu peux dire tout ce que tu veux ou que tu puisses faire tout ce que tu veux. En plus d'avoir la bonne intention, il faut que tu te conformes à la législation. C'est ça, les deux conditions d'acceptation. Que tu aies une bonne intention et que tu te conformes à la législation. Donc, l'auteur, rahimahullah, comme j'ai dit, il a fait ce chapitre pour parler de ceux qui prétendent que les bienfaits qu'Allah leur accorde et les faveurs qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur accorde, ils les ont eus avec, yani ils les attribuent à leurs efforts, leur travail. Il dit ça, je l'ai eu par mon travail, par mes efforts. Ou je l'ai eu à cause de mon intelligence. J'ai su faire la bonne affaire. Et donc, c'est comme ça que j'ai obtenu ça. Ou il dit, je l'ai eu parce que je l'ai mérité. Je l'ai mérité. Donc ça, ça s'oppose au monothéisme sur lequel doit être le croyant. Ça s'oppose au monothéisme auquel doit être le croyant, dans lequel il attribue tous les bienfaits et toutes les faveurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, il les attribue uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit des bienfaits apparents ou cachés. Il les attribue tous ces bienfaits, ils attribuent toutes ces ni'am, toutes à Allah subhanahu wa ta'ala, et il le loue sur ses bienfaits. Et il les utilise dans son obéissance. Et il ne voit pas qu'il a un mérite dans l'obtention de ses bienfaits. Il ne voit pas qu'il a un mérite dans l'obtention de ses bienfaits. Ou encore moins qu'Allah lui a donné parce que il les mérite. Ou encore moins parce que c'est un droit pour Allah de lui donner ça. Lakin, il voit que tous les bienfaits, que toutes les faveurs par lesquelles Allah le comble sont un pur bienfait, des purs dons de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et sinon, il sera dans une forme d'ingratitude. Il sera dans une forme d'ingratitude vis-à-vis des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça peut le faire tomber dans l'arrogance ou la fatuité ou l'émerveillement par soi-même. Et ça fait partie des plus graves péchés. La règle toujours, rappelez-vous mes frères, la règle c'est que les péchés du cœur sont plus graves que les péchés de l'apparence. Et les deux sont dangereux et peuvent être la cause du châtiment d'Allah. Lakin, les péchés du cœur sont plus graves que les péchés de l'apparence. Donc le lien entre ce chapitre et le livre que nous étudions, le livre de l'unicité, c'est que nous pouvons voir deux cas de figure. Dans le premier, cette personne qui va attribuer le bienfait à ses efforts et à son travail et à son intelligence et ainsi de suite. Elle va les attribuer uniquement à ça. Donc ça, c'est une forme de shirk dans la seigneurie. Car l'attribution des bienfaits, c'est un acte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme vous savez, shirk al-rububiyya, an tansiba fi'lan min af'ali Allah ta'ala li ghayri Allah. C'est d'attribuer un acte d'Allah subhanahu wa ta'ala à autre que lui. Donc ça, c'est une forme d'associationnisme dans la seigneurie. Et le deuxième cas de figure qu'on puisse imaginer ici, c'est celui qui attribue effectivement le bienfait à Allah. Il sait que ça provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il va prétendre qu'il l'a eu par mérite et qu'il l'a bien mérité. Et que ce n'est pas un pur bienfait d'Allah sur lui. Lakin, parce qu'il l'a mérité. Donc ça comporte une forme d'orgueil et d'arrogance et de sentiment de supériorité qui s'oppose avec le monothéisme, qui est une soumission complète à Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا. Donc par rapport à cette personne, Allah dit, et si nous lui faisons goûter une miséricorde de notre part, après qu'un mal l'ait touché, donc Allah subhanahu wa ta'ala, après lui avoir accordé ce bienfait et cette faveur à cet homme, il y a une divergence entre les hommes de science. Est-ce que qui est voulu par ce verset? Qui est voulu par ce verset? Et qui est désigné par le verset? Est-ce que le verset, c'est pour le kafir seulement ou pour tout individu qui puisse agir de cette manière, comme bien même c'est un musulman? On a vu qu'il y a deux catégories. Il y a une forme qui puisse sortir carrément de l'islam et une forme qui reste dans l'associationnisme mineur. Il attribue le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, lakin, il pense qu'il l'a eu par mérite, ou par ses efforts, ou par ses intelligences. Ça, c'est shirk, ce qu'on appelle kufran al-ni'ma, shirk al-ni'ma. Et donc, c'est un shirk mineur. Donc, est-ce que c'est le kafir qui est désigné par le verset, ou tout individu? Et, Wallahu a'lam, comme les savants le disent, le plus proche, c'est que c'est un verset général. Ça englobe tout, les deux. Comme ça, les deux catégories que nous avons vues rentrent dans le verset. Allah dit, dans le sens, et si nous lui faisons goûter une miséricorde de notre part, après qu'un mal l'ait touché. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ceci me revient de droit. Il dit, il ne montre pas la reconnaissance. Il ne reconnaît pas que ce bienfait provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais, et il ne lui attribue pas ses bienfaits et ses grâces. Mais il l'attribue plutôt à ses efforts et à son travail. Ou des fois, il peut l'attribuer à ses ancêtres. Il dit, je l'ai eu de père en fils, comme nous allons voir dans le hadith. Et ça, ça fait partie de la petite mécréance, l'ingratitude, et également rentre dans l'arrogance et la fatuité. La parole de Mujahid, هذا بعملي وأنا محقوق به. Donc, il dit, Mujahid, il a expliqué ce verset, il a dit, c'est une explication avec l'exemple. Il dit, c'est le fruit de mes œuvres et c'est mon droit. Yani, il l'a bien mérité. Et la parole d'Ibn Abbas, dans laquelle il a expliqué ce verset, elle est proche, il dit, cela provient de moi. Yani, c'est moi qui a fait des choses, yani, pour l'avoir. Et donc, je l'ai bien mérité. C'est pas un pur don d'Allah subhanahu wa ta'ala sur moi. Et ensuite, il a cité le deuxième verset, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي. Ça, c'est par rapport à Qarun. C'est par rapport à Qarun, il a dit, قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي. Il a dit, je n'ai obtenu cela que par un savoir que je détiens. Il y a une connaissance des techniques commerciales, des stratégies de vente. C'est comme ça que j'ai réussi à avoir l'affaire, à décrocher ce projet, à obtenir autant de gains. Par mon savoir-faire, par mon intelligence. C'est comme ça que Qarun a dit. Il a dit, innama utitu ala ilmin indi. Qu'est-ce qu'il veut dire, je l'ai obtenu par un savoir que je détiens? Qatada rahimahullah, parmi les imams de l'Mufassirin, a dit, par une connaissance que j'ai des différentes façons d'acquérir les biens. Ala ilmin minni bi wujuhil makasib. Donc il connaît les stratégies, les techniques commerciales. C'est comme ça qu'il a réussi à avoir tout ça. Et d'autres savants, parmi les Mufassirin, parmi les exégèges, ont dit, au sujet de verset, ils ont dit, عَلَى عِلْمٍ مِنَ اللَّهِ أَنِّي لَهُ أَهْلٍ. Donc je l'ai obtenu, par un savoir, il veut dire par un savoir d'Allah. Allah, il sait que je le mérite. C'est pour ça qu'il me l'a donné. Et c'est pour ça ce genre de kuffar, même à l'époque du prophète alayhi salam, on dit à peu près la même chose. Ils ont dit, si Allah nous a donné la richesse dans le dunya, nous a donné le statut, nous a donné le pouvoir, nous a donné toutes ces choses-là, forcément, c'est qu'il sait qu'on les mérite. Et donc, c'est impossible qu'il nous prive de ses bienfaits après la mort. Et ça, c'est faux. C'est un faux raisonnement. C'est pas parce que Allah t'a donné dunya qu'il t'aime et qu'il va t'accorder l'au-delà. Ad-dunya n'a aucune valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne vaut rien pour Allah subhanahu wa ta'ala. Cette dunya, depuis son début jusqu'à sa fin, elle ne vaut pas l'aile d'un moustique. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala, il la donne à tout le monde. À ceux qu'il aime et ceux qu'il n'aime pas. Lakin, ce qui a de la valeur pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la religion. Et c'est le paradis. C'est pour ça il ne le donne qu'à ceux qu'il aime. Et à ceux qui lui obéissent et qui se conforment à sa religion. Donc c'est à peu près la même chose que Qarun a dit. Il a dit, voilà, moi je l'ai eu parce que Allah sait que je le mérite. Et les autres ont dit, Allah il sait que je mérite tout ce qu'il m'a donné dans le dunya. Donc forcément il va me donner la même chose, voire plus dans l'au-delà. Et ça, c'est le même sens que rapporté par Mujahid. Il a dit « Utitu ala sharaf ». Donc, Mujahid, il a été rapporté de lui par rapport à l'explication de verset, la parole de Qarun. « Innama utitu ala ilmin indi ». Il a dit « Je l'ai reçu car à cause de ma noblesse. À cause de ma noblesse. » C'est comme ça qu'il a prétendu, Qarun. Et on connaît son sort suite à cela, le sort qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a réservé, malgré toutes les fortunes qu'il lui a accordées dans le dunya, il a eu un des plus mauvais sorts, Qarun. Donc il dit qu'il l'a eu à cause de sa noblesse, à cause de la noblesse de sa lignée, à cause de sa force physique, à cause de son intelligence. Amma le croyant, il attribue tous les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala à un don pur de la part d'Allah. Tayyib. Et ensuite, il a cité ce long hadith que nous allons lire, inshallah ta'ala, rapporté selon Abu Hurayra radiallahu anhu, de notre prophète, alayhi salam, dans les deux authentiques. Donc, Abu Hurayra radiallahu anhu dit, il a entendu le messager d'Allah, alayhi salatu wa salam, dire, il y avait trois personnes chez les enfants d'Israël. Donc, il y avait trois personnes chez les enfants d'Israël. Donc, ça veut dire, ce sont des récits de gens d'avant nous, des gens du livre, avant notre communauté. Ces trois personnes. Le premier était un lépreux. Un lépreux, donc c'est une maladie de la peau connue. Et le deuxième était un teigneux. Il avait yani, une maladie du cuivre chevelu, yani, qui fait disparaître les cheveux. Et le troisième était un aveugle. Donc les trois étaient éprouvés par ces défauts. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu les éprouver et leur a envoyé un ange. L'ange est allé voir en premier le lépreux. Il lui a dit, quelle est la chose que t'aimerais le plus? Il a dit, un beau teint. Il souffre de cette maladie de peau. Et son grand souhait, c'est de jouir d'une belle peau dans laquelle il n'y a pas ce défaut. Il a dit, et que je sois débarrassé de cette humiliation par laquelle je dégoûte les gens. Yani, ça repousse les gens. Donc l'ange a passé sa main sur ce dernier, ce lépreux, et sa peau est devenue belle. Allah l'a guéri de la lèpre. avec le passage de la main de l'ange une seule fois, avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, ça nous indique que Allah subhanahu wa ta'ala est l'omnipotent par excellence. Il est capable de toutes choses, avec des causes et sans même les causes. Donc, Allah a ordonné à l'ange de passer sa main, cette personne était guérie instantanément de cette maladie. Ensuite, l'ange lui a dit, « Quel bien préfères-tu » Il a dit, « Les chameaux ou les vaches ?» Le rapporteur a douté. Le doute provient d'Ishaq. « Ash-shakku min Ishaq » Il y a un des rapporteurs de ce hadith. Il a douté, est-ce que le premier a demandé les chameaux ou les vaches ? Et il a reçu une chamelle porteuse et l'ange lui a dit qu'Allah te la bénisse. Yani qu'Allah te bénisse cette chamelle. Donc il a invoqué Allah pour que cette chamelle soit bénie. Et la bénédiction, c'est l'abondance des biens. Al-baraka kathratul khayr wa nama'uhu et l'augmentation des biens. Et cette invocation a été exaucée, on va le voir dans la suite du hadith. Cette invocation de l'ange a été exaucée. Est-ce que toutes les invocations des anges sont exaucées? Bien évidemment, qu'un ange fasse une invocation en ta faveur, c'est parmi les causes de l'exaucement. Mais pas parce qu'une invocation réunit une cause, voire plus de l'exaucement, qu'elle sera toujours exaucée. Ça, il faut le savoir. Lakin ici, nous savons que l'invocation de l'ange a été exaucée. Taïb. Il est parti voir le deuxième. L'Aqra. Le chauve. Il lui a dit, quelle chose aimerais-tu le plus? Il a dit, de beaux cheveux. Et que je sois débarrassé de ce qui fait que je dégoûte les gens. Yani, ce qui repousse les gens. L'ange a passé sa main sur lui. Et son mal est parti. Et il a reçu de beaux cheveux. L'ange lui a dit par la suite, quel bien préfères-tu? Il a dit, les vaches ou les chameaux. Donc un des deux a demandé les vaches et l'autre a demandé les chameaux. Le rapporteur ne se rappelait pas très bien lequel des deux a demandé les chameaux et qui a demandé les vaches. Lakin, c'est une certitude que un a demandé les chameaux et l'autre a demandé les vaches, car le troisième va demander les moutons. Et regardez la précision des rapporteurs. Ça nous indique que tout ce qu'ils rapportent, ils le retiennent, ils le maîtrisent à la perfection. Et au moindre doute, ils vont le signaler. Comme ça, nous, on peut savoir ce qui est le plus juste par d'autres narrations de ce même hadith. Donc il a demandé les vaches ou les chameaux, il a obtenu une vache porteuse, et l'ange lui a fait la même dua, qu'Allah te la bénisse. Et puis, l'ange s'est dirigé vers l'aveugle, et il lui a dit, quelle est la chose que t'aimerais le plus? Il a dit, qu'Allah me rende la vue. Et qu'ainsi je puisse voir les gens. Et l'ange a passé sa main sur lui et Allah lui a rendu la vie, la vue. Allah lui a rendu la vie, la vue. Il lui a dit ensuite, quel bien préfères-tu? Il a dit les moutons. Il a reçu un mouton. Et les biens que chacun de ces trois hommes ont reçu, ont donné, et en production, ont produit d'autres animaux et se sont multipliés. Et plus tard, celui qui avait la chamelle, qui a reçu la chamelle, il a eu une vallée remplie de chamelles. Une vallée remplie de chamelles. Et l'autre a eu une vallée remplie de vaches. Et le troisième, une vallée remplie de moutons. Donc Allah a exaucé l'invocation de l'ange et ces animaux se sont multipliés, ils se sont reproduits jusqu'à ce qu'ils ont eu autant. Et ensuite, cet ange est revenu par la suite, plus tard, il est revenu voir les trois hommes, chaque au tour de rôle. Il est allé voir en premier le lépreux. Et il est venu avec le même aspect que ce lépreux avait avant, c'est-à-dire avec l'aspect d'un homme pauvre qui est touché par la lèpre. Il lui a dit, je suis un homme pauvre, en voyage, qui n'a rien, et je ne peux continuer ma route que par l'aide d'Allah et par ton aide. Regardez l'ange, yani il utilise les expressions correctes. Il a dit, je ne peux continuer mon voyage que par l'aide d'Allah, d'abord, puis. Il n'a pas dit « et l'aide, et ton aide ». Il a dit « puis ton aide ». C'est-à-dire ton aide, c'est une cause. Il lui a dit « je te demande au nom de celui qui t'a donné un beau teint, une belle peau, et autant de biens et de richesses, de me donner un chameau sur le dos duquel je continuerai ma route ». Regardez, Allah subhanahu wa ta'ala lui a la guéri de la lèpre, lui a donné une belle peau, lui a donné énormément de richesses, des chameaux qui remplissent toute une vallée. Et ce pauvre, qui a le même aspect qu'il avait lui avant, il lui demande un seul chameau. Qu'est-ce qu'il répond? Il lui demande par le nom d'Allah. Normalement, quand on te demande par le nom d'Allah, tu donnes, sauf si tu n'es pas capable. Ou tu sais que la personne, c'est un voleur, ou là c'est quelqu'un qui fait de la manche, un métier, ou là. S'il y a un empêchement, sinon tu donnes tant que tu es capable. Et ça, on va le voir dans un chapitre qui va venir par la suite. Quand on nous demande par le nom d'Allah et les conditions dans lesquelles ça devient une obligation de donner, et les conditions dans lesquelles ça devient recommandé, ou les conditions dans lesquelles on est excusé de ne pas donner, payer. Il lui a dit de me donner un seul chameau sur lequel je continuerai mon voyage. Jusqu'à arriver à destination. Il lui a dit, Allahu Akbar. Regardez, je vais le lire en arabe ce qu'il lui a dit. Il lui a dit, Lana mashallah, c'est très fort, yani en arabe. Il lui a dit, Qala al-huquq kathira. Faqala al-huquq kathira. Il a dit, les obligations sont nombreuses. Il lui a dit, mes obligations sont nombreuses. Yani, comme aujourd'hui, t'entendrais quelqu'un dire, j'ai trop de charges, j'ai beaucoup de dépenses, je peux pas aider. Il a dit, les obligations sont nombreuses. L'ange lui a dit, l'ange avec une apparence humaine. Et ça démontre quelque chose de très important, que les anges, c'est un corps physique. Les anges, c'est pas un sens, c'est pas une force abstraite, c'est un corps physique. Les savants ont déduit ça de ce hadith et de d'autres textes. Taïb. Donc il lui a dit, l'ange lui a dit, mais je te connais, n'étais-tu pas un lépreux qui dégoûtait les gens et un pauvre à qui Allah a donné des biens? Il lui a rappelé son état antérieur, son état passé. Cet homme a renié. Il a dit, j'ai seulement hérité ces biens de mes ancêtres. Il a dit, ces biens, je les ai eus de père en fils. Yani, on est une famille ancienne dans la richesse. Yani, Hachi, c'est pas d'aujourd'hui. Et l'homme, et l'ange lui a dit, si tu mens, eh bien qu'Allah te renvoie à l'état qui était le tien. L'ange sait très bien qu'il ment. Et ça, c'est une preuve comme quoi il est autorisé de mettre une invocation, yani, de faire une invocation conditionnée. De faire une invocation conditionnée. Comme dans Salat al-Istikhara. Allahumma in kana hadha al-amru khayran li. Tu dis, oh Allah, si cette affaire est une bonne affaire pour moi, facilite-la moi. Donc ça, c'est exactement ce qui a été fait ici également. Il a dit, si tu mens, eh bien qu'Allah te renvoie à l'état qui était le tien. Et là aussi, l'invocation de l'ange a été exaucée. Il a été renvoyé à son état initial avec la lèpre et puis la pauvreté. Puis il est allé voir le deuxième, le chauve, le teigneux, sous l'aspect qu'il fut le sien. Il lui a dit la même chose. Il est venu avec l'aspect d'un homme chauve et puis pauvre. Il lui a fait formuler la même demande et il a donné la même réponse que le premier. Il lui a dit, si tu mens, qu'Allah te renvoie à ton état initial. Et puis il est allé voir le troisième, l'aveugle. Rappelez-vous l'aveugle, Allah lui a donné les moutons. Et l'homme est influencé par les animaux qu'il mange et les animaux qu'il côtoie, et ainsi de suite. L'homme est influencé par son entourage. C'est pour ça en arabe on dit « Al-insanu ibnu bay'ati ». L'homme est l'enfant de son environnement. Donc, il est allé voir cet homme aveugle et à qui Allah a donné les moutons et qui est devenu riche. Il lui a dit « Je suis un homme pauvre, un voyageur qui n'a plus rien et je ne peux désormais continuer ma route que par l'aide d'Allah puis par ton aide. Je te demande au nom de celui qui t'a rendu la vue de me donner un mouton grâce auquel je pourrai continuer ma route. » L'homme lui a dit « J'étais un aveugle et Allah m'a rendu la vue. Prends donc ce que tu veux et laisse ce que tu veux. Car par Allah, je ne te priverai pas aujourd'hui d'une chose que j'ai prise au nom d'Allah. » Il lui a dit « Tout ce que tu vois, tous ces moutons qui remplissent toute cette vallée, c'est Allah qui me les a donnés. Je ne les ai pas mérités. Je ne les ai pas hérités de père en fils. » Et ça, d'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose, c'est que l'héritage était connu dans les communautés d'avant. L'héritage était bien connu dans les communautés d'avant. Et vous savez que même dans la loi française, dans le cadre du mariage, il y a héritage entre les époux, sauf s'ils l'annulent dans leur contrat de mariage. Contrairement aux pacs, ou avec les autres choses qu'ils font, qui sont reconnues par l'État, lakin, il n'y a pas l'héritage. Ça, c'est ce qui leur reste de leur religion chrétienne falsifiée. Taïb. Donc, il lui a dit, tous ces biens, c'est un pur don d'Allah sur moi. Aujourd'hui, prends tout ce que tu veux, quitte à prendre la totalité, même si tu ne me laisses aucun mouton, par Allah, je m'y opposerai pas. Et je ne te priverai pas de quelque chose qu'Allah m'a donné, subhanahu wa ta'ala. Et l'ange lui a dit, garde tes biens. Vous avez simplement été mis à l'épreuve, toi et les deux autres, et Allah est satisfait de toi. Pourquoi Allah est satisfait de lui? Parce qu'il est reconnaissant. Il est reconnaissant. Il attribue les bienfaits à Allah subhanahu wa ta'ala. Il les utilise dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah était généreux avec lui, lui aussi il est généreux avec les gens, avec les créatures. Et Allah aime ces gens-là. Il lui a dit, mais Allah est en colère contre tes deux compagnons, les deux autres, le lépreux et le chauve. Ce hadith a été rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim. Donc parmi les leçons à tirer également de ce hadith, c'est que les anges peuvent prendre des apparences humaines quand Allah subhanahu wa ta'ala leur permet cela. Les anges peuvent prendre une apparence humaine quand Allah subhanahu wa ta'ala leur permet ça. Et ça indique que ce sont des corps, qu'ils ont un corps. Et comme l'histoire de Jibril alayhi salam, des fois, il venait voir le Nabi alayhi salam avec l'apparence de Dihya al-Kalbi radiyallahu anhu, un des plus beaux compagnons. Il venait avec son apparence. Et les compagnons, ils pouvaient le voir et ne pas savoir que c'est Jibril. Jusqu'à ce que le Nabi alayhi salam leur dise, ça c'est Jibril. Ils pensaient que c'était Dihya. Ils parlaient avec le Nabi alayhi salam, ils pensaient que c'est Dihya qui parle avec le prophète. Alors que c'était Jibril alayhi salam. Et également, l'autorisation de faire une invocation et de avec une condition. Également, regarder l'ange, malgré qu'il savait que les deux, c'est des menteurs. Lakin, il n'est pas resté avec eux dans cette étape de chercher à dévoiler leur mensonge. Il est passé avec eux à une autre phase, à une autre étape. Il a dit, d'accord, Lakin, si vous êtes des menteurs, qu'Allah vous renvoie à votre état initial. C'est pour ça, des fois, ça sert à rien de s'attarder avec l'adversaire sur un point et de passer à un autre encore plus flagrant, comme a fait Ibrahim alayhi salam avec Nimrod. Il a dit, c'est moi qui donne la vie, c'est moi qui ôte la vie, c'est moi qui a dit, il lui a dit d'accord. Lakin, c'est pas qu'il a approuvé. Lakin, il est passé à quelque chose de plus flagrant qui va le dévoiler même avec les gens de son peuple. Car le premier point, il peut, il a ramené quelqu'un, il a en vie, il l'a tué, il a ordonné à ce qu'il soit tué, et quelqu'un qui était jugé d'être tué, et il a ordonné qu'il ne le tue pas. Lakin, il lui a dit, Allah, il fait venir le soleil par ce côté-là, et il le fait coucher de l'autre côté. Alors, est-ce que tu peux faire pareil? Donc là, il a été dévoilé. Même pour les gens de son peuple. Car les gens de son peuple ont déjà vu le soleil se lever à l'est et se coucher à l'ouest avant la naissance de Nimrod. Donc là, il va pas ruser et dire c'est moi qui le fais ramener ou là qui le fais coucher. Ils l'ont vu avant sa naissance. Et là, فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ. Il n'avait plus rien à dire. Et aussi, on tire une faïda importante, c'est que la question la plus importante, mes frères, dans le rizq, c'est al-baraka. C'est pas la quantité de rizq. C'est pour ça que les savants précisent que des fois, quand Allah te met le baraka dans ta subsistance, pas forcément il te donne plus. Là, il te fait profiter pleinement de tout ce qu'il t'a accordé. Quelqu'un gagne 1000 euros. Mais tu vas trouver qu'il va utiliser ces 1000 euros, yani, dans énormément de choses. C'est pas forcément le baraka, Allah, il va te donner 10 000 euros de salaire par mois au lieu de 1000 euros. Des fois, ça peut être ça. Et des fois, ça peut être de te permettre de profiter pleinement de tout ce qu'il t'a donné. Alors que tu vois des riches, des millionnaires, des milliardaires, peut-être ils sont même privés de manger et de boire. Il prend que des comprimés. Il peut pas manger, il peut pas boire. Donc le baraka, c'est aussi ça. C'est de te permettre de profiter pleinement de tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordé. Et donc, les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, mes frères, en résumé, les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala doivent être attribués à Allah seul. Et non pas à nos efforts, ni à notre intelligence. Et parmi, même c'est le plus grand bienfait d'Allah sur nous, c'est la guider. Si on est guidé, et si on est dans la vérité aujourd'hui, c'est un pur bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un pur bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala vis-à-vis duquel nous devons être reconnaissants. Être reconnaissants et préserver ce bienfait. N'expose pas ta religion au danger, aux ambiguïtés, en allant écouter tous ceux qui parlent de religion. Ça fait partie de la reconnaissance sur cette ni'ma de l'islam. C'est de ne pas tendre l'oreille à tous ceux qui parlent. Et de prendre uniquement des gens de la vérité, des gens de la sunna. Ça, c'est une reconnaissance sur cette ni'ma. Et vous voyez que les commerçants, ils agissent de cette manière vis-à-vis de leur trésor. Ils les préservent, ils les donnent pas à n'importe qui. Juste parce qu'il a une bonne apparence, ou là, il sait bien parler, ou là. Non. Alors, que dire du plus grand trésor qu'Allah nous a accordé, qui est le trésor de la foi, et de l'islam, et de l'amour de la sunna, et du suivi du prophète, alayhi salatu wassalam, qu'Allah nous raffermisse sur cette voie jusqu'à le rencontrer, qu'Allah nous facilite les œuvres pieuses et acceptables, et nous accorde la sincérité et la véracité dans tout ce que nous disons, et dans tout ce que nous faisons, et nous faire mourir dans la religion de l'islam, sur laquelle était un nabi, alayhi salatu wassalam, ainsi que ses nobles compagnons, qu'Allah les agrée tous. والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.